Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour de nouvelles lectures en liberté. Nous allons continuer ce soir, si vous le voulez bien. La lecture du texte de Jacques Josse, Café Rousseau. Un lent défilé d'ombre s'ébranle. Voilà Rousseau promu passeur de revue. La scène a lieu sous ses paupières. Fin d'été. Des silhouettes furtives se dessinent. Il y a celle du marailleur et du fleuriste. Celle de l'arthritique et du marchand de cycles, ou encore celle du sémaphoriste et du ramasseur de pommes de terre. Il ne manque ni le facteur ni le chef conducteur du camion des cantonniers. D'autres, plus irréguliers, reviennent de loin. Rousseau les a à la bonne. Il s'incline à tour de rôle. Il leur décoche un sourire de connivence. Ce sont des voyageurs, des errants, qui débarquent. Des types gerbés sur un quai d'Europe par une coque en crise. Ils entrent, saluent sèchement les sédentaires, s'assoient pour tasser d'antiques breuvages au coin des tables. Des heures durant, les morues du Groenland et les thons aux tripes vertueuses de Mauritanie leur tiendront compagnie.
Certains soirs, il y a foule ! S'exclame soudain l'ex-marin. La salle est pleine à craquer, personne ne veut partir, et les arrivées se succèdent.
Le sang lui violace le visage. Il tape du poing sur les draps, se met à rire tout seul.
Le sacré tohu-bohu des souvenirs !
Le curé reste muet. Il a choisi de se taire. Il n'est pas là pour mener la conversation. À son avis, tout homme de prière qui se respecte se doit de cheminer humblement. L'auréole du Christ naviguant à distance, une dizaine de mètres au-dessus de la tonsure. La tête vacante est prête à recevoir les mots des repentis tombés ici avec les dernières gouttes de la dernière pluie. À lui ensuite de leur montrer la voie, de leur tendre et de tenir le bas de l'échelle qui mène dans un grenier à ciel ouvert, quelque part, entre l'immuable et l'incertain. Il est seul. Il est l'intermédiaire tout entier voué à ses ouailles tondues au tranchant des croissants de lune. Alors il écoute, il prend note, et qu'importe l'effroi des charpentes qui craquent. Sa disponibilité ne craint pas l'âme tournante des revenants. Il a assez d'images en réserve pour déjouer ce genre de piège. Il est prêt à rester toute la nuit s'il le faut. Il sait que le cafetier n'en a plus pour longtemps. 2-3 jours au plus. Avec un foie pourri, 2 jambes mortes et une tête en escale dans les arrières-salles portuaires du monde. L'issue ne peut être que proche et fatale. Cela dit, d'élégantes sinuosités de mémoire locale se rejoignent encore, en faisceaux malicieux, dans les iris en queue de rainette du moribond qui débobine et débobine le fil léger de sa vie à tout va.
Je peux peut-être me hasarder à dire ce que j'ai vu.
L'abbé sursaute. Il venait de monter à bord de sa péniche à images et juché sur les planches de cet antique théâtre flottant, il s'apprêtait à naviguer loin, très loin, le nez collé entre les seins blancs de l'ancienne boulangère. Il comptait se rendre avec elle dans une crique face au sud, en Espagne sans doute. « Aux confins » soupire-t-il en coupant court à ses dérives. Près de lui, Rousseau s'impatiente. Il toussote, rejette la couverture et plisse en un semblant de rictus la petite dizaine de pattes-doigts qui lui strient la pommette gauche. L'abbé comprend qu'il vaut mieux se reprendre illico. L'œil sombre, il se raccroche à quelques pages éparses du baiser au lépreux. Il ne connaît rien de tel, rien de plus magique qu'un chapitre de ce tordu de Mauriac pour récupérer au plus vite son vieux masque de veille à mi-pénombre, là où il l'avait laissé choir malencontreusement, dans la sciure, dans la cendre, dans le sang des épiphanies glacées.
Eh bien, tel que tu me vois en ce moment, je suis allongé dans le lit de le Herr.
Le Herr ?
Oui, oui, le Herr.
C'est ce long squelette de fer blanc qui a recueilli son dernier souffle. Touche, caresse, regarde. Le Herr est mort dans cette ferraille le 20 octobre 1978 à 8h du matin. Les détails circulent encore en moi. L'agonie, l'effet, le temps, la suite.
Tout est logé ici,
lance-t-il, en se tapotant le front du bout de l'index et du majeur réunis. Interloqué, le curé esquisse un mouvement de recul. Il a du mal à saisir. Il bouge, ose à peine, se rétracte et pour finir parvient tout de même à frôler une écaille de peinture sur le rebord du lit. Le R. Les deux syllabes claquent sous la langue. Inutile de fouiller dans les registres. Ce nom-là est connu. Et son histoire déraille d'un mauvais décembre à un autre, en alternant le rouge et le noir, sans jamais parvenir à maîtriser sa trajectoire. Le curé aimerait bien que Rousseau reprenne, qu'il réactive les braises, qu'il rallume la mèche de la tragédie. Il sait évidemment ce que tout le monde ici s'efforce de taire.
Oh, le fameux jour coquelicot! Oh, le beau jour où le R fit mouche!
Avec mise en scène, ficelle, boue, traînée de poudre et de crème fouettée, éclaboussant le costume noir immémorial des taciturnes de la côte.
Ce jour-là, les ruines du village ont tremblé.
Le long jeune homme triste, l'intelligent en quête de soutane, le fils unique à l'avenir sans embûche, puisque tout tracé entre deux rangées d'étoiles, a frappé fort. Il s'est offert ce que l'on appelle un truc, un luxe, une folie de rien du tout. Il a abattu sa mère d'un coup de fusil de chasse en plein cœur, le soir, dans une cour de ferme, alors qu'elle venait de traire les vaches et qu'elle s'avançait vers lui, un seau de lait dans chaque main, d'abord étonnée, puis très vite inquiète, déconcertée, apeurée, et souriant peut-être une dernière fois en désespoir de cause. En croisant le regard halluciné de son grand, non, de son petit, bref, de « Robert, ne fais pas de bêtises !» qui venait de braquer le canon du fusil de chasse sur elle. Peu importe le jour où cela a eu lieu. Décembre se traînait, collant sa fatigue et sa mélancolie sur des revers d'âme. Quelques gestes maladroits esquissaient des arabesques de fête alentour. C'était un sapin mal coupé, une branche de houx, un bœuf en bois, trois moutons en porcelaine, cinq guirlandes en attente dans une ancienne boîte à chaussures, et tout à coup, la détonation. Elle a giclé en un éclair, un seul, très vif, très bref. Né dans une ferme de la vallée, sifflant à hauteur des peupliers, l'écho a traversé tous les murs. Au cimetière, les vieux morts du clan Le R ont senti frémir leurs os. Ce qu'il restait de leur colonne vertébrale a émis un craquement douloureux. C'est parti de Charles, l'ancêtre, le colosse aux longues moustaches noires, versé une nuit d'hiver, ivre-mort, de la brouette au fossé et récupéré le lendemain à la même place, par le patron du débit de boisson, qu'il avait si peu obligeamment congédié de son antre, raide pour de bon et gelé ad vitam aeternam dans ses vêtements de bois. Le choc a ensuite rencontré les petits éclats de plomb en fissurant le carré d'herbe où reposent les miettes d'Édouard. Le grand-père ramassé à la petite cuillère, puis mis dans un sac et ramené tel quel dans une boîte par le rail en mars 1916, de Sedan jusqu'ici. L'onde souterraine n'a pas duré une seconde. Elle a fini sa course sur les rivets du cercueil quasi neuf, 3 ans d'âge, de Pierre, le père, qui a dû ouvrir la bouche et recommencer à prier, lui, le mort tout recroquevillé, mort catholique et repentant, mort usé, vidé, rongé par le mal, mais persuadé jusqu'au bout que la maladie était un péché et que la faute lui en incombait. Ces trois-là, et les autres, les aïeuls, leurs femmes, poussant des voitures de fleurs au 6e sous-sol, et dont la trace s'est peu à peu perdue en cours d'éternité, ont dû broyer qui une motte de terre, qui une longue racine, qui un lombric en digestion, en refermant leurs doigts comme ils le faisaient jadis de leurs poings, d'un geste sec, de colère, de stupeur. De cela, le curé en est sûr. Et Rousseau, qui imite maintenant le ronflement irrégulier des endormis aux sinus encombrés, serait certainement d'accord avec lui.
Il n'en restait plus qu'un, et c'était celui-là. Un port du Nord, ça plaît, surtout quand on n'y est pas. Ça fait qu'on voudrait y être, ça fait qu'on ne sait pas bien s'il faut se taper le poète ou se taper la putain. Rotterdam, où il n'y a pas que des putains, où il n'y a pas que des marins, où il y a des chiens perdus et des enfants des rues, où il n'y a pas que des marchands, où il n'y a pas que des chalands, où il y a des vieux chevaux qui brigent avec la mort, où il y a des flics chinois qui se prennent pour la reine, où il y a des filles en soie qui font couler leur gaine sur le bord du trottoir comme un chagrin de plus qui traînera ce soir tout le long de la rue. Si au moins ça pouvait ressembler à Rotterdam, où il y a des rats crevés comme il y en a à Paris, où il y a des chats croisés avec des vieilles souris, où il n'y a pas de l'import, où il y a bien loin du port des amants qui se font et puis qui se défont, où il n'y a pas que des banknotes au seuil des mini-jupes et des mecs qui s'occupent à placer leurs camelotes, où il y a des malheureux qui donneraient leur cul si en donnant son cul on était bien heureux. Si au moins ça pouvait ressembler à Rotterdam, où il y a des assassins planqués dans leur whisky et puis des insensés qui passeront pas la nuit, où il n'y a pas que du tabac au goût de caramel, où il y a de pauvres soldats qui se farciraient le carmel, où il y a un Christ debout derrière un bar de nuit qui cause avec le bout de la nuit, où il y a des exilés qui sortent leur exil dans le ciel barbelé d'une publicité con. Si au moins ça pouvait ressembler à Rotterdam, où je n'irai jamais, car je vais au soleil, où tu n'iras jamais, car partout c'est pareil. Je prends le train du sud, tu prends le train du sud, il prend le train du sud jusqu'au bout de la nuit. Si au moins ça pouvait ressembler à l'Italie.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et toujours après la pause musicale, nous revenons au récit de Jacques Josse, Café Rousseau. Ah, ce Rousseau, il porte décidément bien des voyages en lui. Le prêtre, en y songeant, ne peut réprimer un vague sourire. Ce soir, le bistrotier s'est certes montré moins prolixe que de coutume, mais il a suffi qu'il évoque à mots couverts l'énigme du séminariste Le R pour que lui, curé, en profite pour s'offrir une plongée dans la bonne terre chaude du cimetière. « Surtout ne pas oublier d'éteindre en sortant, » murmure-t-il. Il enroule le chapelet dans son étui, descend lentement l'escalier, appuie sur le commutateur du bas, tire doucement la porte derrière lui, respire un bon coup et se met à marcher dans l'obscurité, entre bitume et broussailles, en écoutant claquer ses souliers dans la nuit. Chaque soir, l'abbé traverse le paysage. Il file sur le chemin de ronde. D'est en ouest, on voit son ombre qui court. De temps à autre, il extirpe une fiole de sa poche, la porte à ses lèvres, la suce en silence au goulot sur la lande, et puis s'essuie la bouche d'un revers de manche. Parfois sa silhouette se perd entre les ajoncs, les ronces, les fougères. Elle réapparaît à la faveur d'une côte, s'éclipse à nouveau pour revenir encore, cheminant toujours de Port-Spin à Bréhec et de la pointe de la Tour à Lens-Cochat, avant de bifurquer directement sur Gwynségal, sans escale, sans heurts. Son nom est Inizan. Il a débarqué ici par hasard à la mort du précédent, éjecté sur la place par le soufflet du car de la compagnie armoricaine qui assurait alors la liaison Saint-Brieuc-Triguier par la côte. Quelques-uns s'en souviennent. Il était vêtu d'un costume noir élimé avec la croix en miniature qui brillait sur le revers de sa veste. Il restait figé sous l'abribus. Deux valises lui tenaient compagnie. Il avait un sac de sport rouge et or en bandoulière sur l'épaule. Il arborait en outre le visage buté des hommes perpétuellement en colère. Au début, le comité d'accueil fut des plus froids. L'humeur vache des cloportes des falaises était de sortie. Un simple grattement d'ongles et le fragile vernis clérical faillit même partir en lambeaux. Ce front plissé, ce regard sévère, ces mâchoires serrées, ne furent pas du goût des racleuses de bénitiers qui, dès le lendemain de son arrivée, à genoux sur les chaises basses près du chœur, adressèrent un message bref à qui l'on devine. « Dieu ! Faites que ce curé-là remise sa courte gueule de bouledogue au vestiaire. Le plus tôt sera le mieux. » Ensuite, elles se levèrent ensemble et quittèrent l'église d'un même pas. Pendant ce temps, l'étranger, l'imperturbable, l'ombrageux en rogne, la carpe venue du pays des rivières, commençait ses allées et venues dans la contrée. Il prenait le pouls du bourg en aparté, marchant à grandes enjambées de la fontaine à l'église ou laissant au contraire lentement traîner son ombre sur les dalles du cimetière. Son attitude éveillait quelques soupçons. Derrière les arbres ou les fenêtres, on décomposait le moindre de ses mouvements.
Ce type devait consulter les oracles, se pencher sur la béance des tombes, demander l'avis des bêtes équivoques, la belette, le grand-duc, l'alouette des lisières. Il devait mettre le ciel, les nuages, les goélands dans sa poche. Devait, qui sait, tisser la barbe du saint local ou recoller l'extrait de naissance déchiqueté de tous les hommes au nom travaillé à la feuille d'or sur la pierre du monument aux morts. Il devait peut-être bien nous déshabiller tous dans sa tête, disait la taille, le tailleur ambulant.
Les supputations allaient bon train. Son intronisation au centre de la commune était prévue pour le dimanche à venir. Alors on furetait, on observait, on notait ses tics, ses manies. Plus secrètement, on attendait. Le crépuscule, la braise et les fagots en appui. Que la flamme divine fasse elle-même son œuvre, qui était de rôtir en un clin d'œil la face patibulaire de ce sévère à la bouche en berne.
Peu pressés de regagner leur pénate froid, au fin fond des hameaux, cinq ou six fêlés en profitaient pour s'agiter en tous sens dès la tombée du jour. Ils s'échauffaient le sang en sirotant du petit rouge à même le comptoir, se déclaraient prêts à tout, y compris, si nécessaire, à tomber à bras raccourcis sur la gueule de cire du locataire d'en face. Eux aussi attendaient la cérémonie dominicale. Tony en faisait partie. Le vendredi soir, accoudé au bar du café de la place, il éructa. « Ici, les chats sans poils, on les balance au creux des mares !» Son invectif lancé, il se retourna, cracha sur le carrelage, fit un bras d'honneur en direction de l'église, déboucla sa ceinture et le bleu entrouvert, délogea du slip un sexe chevillé qu'il se mit à travailler en bague entre le pouce et l'index. « Voilà la gueule du chat » expliqua-t-il. Médusés, les consommateurs fixaient la scène. Leur regard courait de Tony au patron. Le visage de celui-ci hésitait entre le blême et le rouge cramoisi. À un moment donné, il n'y tint plus. D'un bond, il fut sur Tony. Un silence épais coulait entre les tables. Personne ne bronchait. Seuls les mégots pendaient aux lèvres. Et puis tout s'enchaîna très vite. Il y eut un brusque ahan de bûcheron, une prise au col de chemise, trois coups de poing successifs, et 30 secondes plus tard, Tony aplati, sonné, éberlué, chancelant, mais toujours debout, se reboutonnait sur la place du bourg en sortant un mouchoir sale pour éponger son nez qui pissait le sang.
Aujourd'hui, on trouva le curé étonnamment calme et détendu. Les cierges du cœur permettaient d'entrevoir une figure sereine, presque courtoise. Un rien rougeaude, cependant. On eut dès lors l'intuition que le vent allait forcir et la partie tourner inévitablement à son avantage. Il vint en tenue blanche d'apparat, avec encolure et capuchon dominicain robuste, les cheveux coupés en brosse, la cinquantaine nervurée aux commissures des lèvres, il tint colloque derrière l'autel, face à l'argenterie sacrée du divin service au grand complet. C'est à partir de cette table stratégique, debout près d'un arôme géant, qu'il détacha ces mots. Il fit reluire les psaumes, les syllabes. Tout ça chanta, éjecta quelques écailles et se mit à sortir des phrases aux ruades aussi imprévues que celles des truites qui savent élégamment plonger, piquer et disparaître au fond de l'eau au hasard d'un coude, d'un remous, d'un bief ou d'un déversoir au bord du lef ou du trieux. Il parla longuement. De tout, de rien. De l'eau, des larmes, des pommes de terre et du mildiou. Des âmes des moteurs diesel sur la mer et de celles des camions-citernes des collecteurs de lait. Il fit en sorte de n'oublier personne. Il caressa deux, trois apôtres du plat de la main,
ajouta une pincée de sel au breuvage de Thomas l'incrédule et épongea du bout de l'étole les plaies au visage d'un affreux pénitent rossé à coups de trique par des brutes alors qu'il effectuait une marche paisible à genoux sur les graviers, quelque part sur la route qui relie Plomodierne à Sainte-Anne-la-Palude.
« C'est de là que je viens, d'un village situé aux confins d'une autre presqu'île, cria-t-il,
en décrivant des moulinets à l'envi avec ses bras. » Tout au long de la cérémonie, l'abbé plaça la barre à hauteur respectable. Il sermonna fermement. Sa voix courait sous les voûtes. Dans la nef, les marionnettes dodelinaient de la tête. On pouvait penser à des chiens en peluche, assis sur la plage arrière des voitures. Certains fidèles tiraient la langue. À l'évidence, beaucoup d'entre eux étaient venus pour laper du bon lait en famille, et ils lapèrent jusqu'à plus soif. Lui, il se contenta de remplir les écuelles, une pour les morts, une pour les enfants, une pour les petits à naître dans l'année. Il se permit même quelques facéties comme ça, gratuitement, pour se maintenir en forme cléricale. Le dimanche suivant, il en remit une couche un peu plus revêche et granuleuse que la précédente, mais tout aussi efficace. Et depuis, qu'importent les incuries de l'âme, les accros au pantalon de la foi, les sourires en biais de ceux qui branlent du chef en cassant du curé dans son dos, depuis, inisant, dopé au vin de messe ou à l'élixir du goélo, tient la dragée haute aux vivants et aux morts du village. Il sait tout ou presque. Et les rares secrets qui ne sont pas encore tombés dans son escarcelle de maître confesseur des uns, des autres, des pierres, des ruines et des coques de bateaux perdus finiront bien au gré d'une pirouette bavarde ou d'un ultimatum dicté par un corps qui flanche par rejoindre les pièces éparses d'un puzzle qui ne demande qu'à se reconstituer pour devenir petit évangile rafistolé à la mode locale.
Cette lecture est terminée pour ce soir. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Lectures en Liberté en podcast sur bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.